Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet en podcast www.rdwa.fr ou sur les ondes FM comme vous le faites sur le 107.5. Aujourd'hui, nous sommes avec deux personnes, à commencer par Kariang Stablo. Bonjour.
Bonjour.
Kariang Stablo, vous êtes une des fondatrices de l'association, si on peut dire, de CCC, Creative Coopération Culture. Et puis, nous avons aussi Tim Haider, bonjour.
Salut.
Sympathisant et puis aussi soutien de cette association.
Voilà.
Alors tous deux, vous êtes venus pour nous parler de cette association. À commencer d'abord, pourquoi cette association Creative Coopération Culture?
Oui, en fait, l'intention, ça a été de répondre au contexte du dérèglement climatique dans la Drôme. Donc il y a un an, nous avons créé cette association pour principalement répondre aux besoins des agriculteurs, de savoir mieux comment adapter leurs pratiques culturelles pour maintenir et réhabiliter l'eau et la biodiversité. Donc en fait, l'association accompagne les communes rurales et dans les petits bassins versants, c'est-à-dire c'est les communes rurales qui souhaitent soutenir leurs agriculteurs et voir comment répondre à cette question de renforcer la sécurité en eau dans les vallées. Donc comment améliorer la gestion des eaux de ruissellement. Et par là même aussi accompagner à comment régénérer les sols et accompagner ces fameuses pratiques culturelles dans ces petits bassins versants.
Ça, c'est une constatation de ce qui existe au niveau de l'eau sur les territoires. Là, on se limiterait à quelle partie, Vallée de Quin ou au-delà?
Alors, c'est le département de la Drôme qui nous intéresse particulièrement, mais on candidate à des appels à projets en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ça peut être tout autant le département Ardèche ou effectivement en Auvergne-Rhône-Alpes sur les secteurs qui se posent ces questions-là également.
Cette raison s'est établie avec des échanges auprès des agriculteurs, de la population. Qu'est-ce qu'il en ressortait de la plupart de ces propos?
Alors, de mon dernier entretien dans une petite commune rurale en Haut-d'Iwa, ce qui ressort, c'est effectivement qu'il y a une vraie problématique de prévention des incendies. Également retrait gonflement des argiles et puis des sources qui se tarissent. Donc sur certains secteurs, dans des petits vallons, les agriculteurs sont vraiment un souci. Donc très souvent, la réponse, on va dire, la plus directe et immédiate, c'est de dire on va installer des retenues collinéaires. Notre approche est justement de voir comment accompagner sur l'ensemble du petit vallon cette question et la proposer autrement, c'est-à-dire par l'observation de la topographie. On peut proposer des solutions qui optimisent la ressource en eau, qui permettent de réinfiltrer et donc réalimenter la nappe phréatique. Donc c'est à la fois pour l'agriculteur, mais c'est aussi pour la biodiversité dans son vallon, on va dire. Donc on va bien au-delà de juste une solution ponctuelle. Et je pense que là-dessus, effectivement, nos sites d'expérimentation actuels sont, dont Tim est présent, pourra vous donner un exemple très concret de cette problématique, de ce besoin, et effectivement des solutions qui sont vraiment innovantes et accessibles. C'est ça que je veux dire. On voudrait mettre en place des chantiers participatifs pour que ce soit accessible à tous et que chacun puisse s'approprier ses savoir-faire à sa mesure.
Ça serait pour créer des dispositifs de, comment dire, de ralentissement, d'écoulement des eaux, de manière à ce qu'elles puissent être partagées sur un ensemble de territoires et de professionnels agricoles. Il y a une question qui me vient, c'est par rapport à la politique actuelle en France, où il semblerait qu'on serait en train de démolir ou démonter les barrages ancestraux ou des digues. Est-ce que vous n'entrez pas dans une certaine contradiction dans cette démarche?
Oui, alors, il y a la dimension patrimoniale. qui entre en jeu. Et effectivement, la problématique, il y a une vraie controverse entre le, on va dire ce qu'on pourrait appeler la biodiversité, comment préserver la biodiversité, et aussi cette dimension patrimoniale, où effectivement, là, on se pose vraiment des questions sur ces enjeux des canaux historiques. Et puis, à la croisée de tout ça, notre expérimentation, c'est de voir comment réhabiliter la circulation gravitaire et diffuse de l'eau. Donc, on n'est pas à dire ce qui se faisait dans le passé, on va le refaire à l'identique. On est plutôt à observer la structure agraire héritée de ces vallons. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la morphologie parcellaire, c'est les fameux chemins creux, les fameux talus fossés, les fameuses les implantations même du bâti étaient absolument appuyées et en connaissance de la topographie. Donc, on va revenir sur ces connaissances ancestrales, donc cette sagesse paysanne. Ne pas forcément reconstruire à l'identique, hein, mais s'appuyer sur cette sagesse transmise. Il y avait des maîtres des pierres, il y en a certainement encore, des sourciers, il y en a encore. Donc cette sagesse, elle a tendance à se perdre, de par notamment ces phénomènes torrentiels, c'est-à-dire ces fortes pluies, ces fortes inondations, ces phénomènes torrentiels, de par le dérèglement climatique, font que on va dire ces murets citernes sont en état de ruine et disparaissent très rapidement sous nos yeux. Donc là, il est temps d'agir. Donc nous avons créé cette association pour passer à l'action en connaissance de cause de effectivement ces législations, ces réglementations et cette sagesse ancestrale, et voir en s'appuyant sur des connaissances contemporaines, notamment en zone désertique, telle qu'en Australie et Californie, comment les adapter en France. C'est vraiment la recherche et l'innovation, elle est aussi de voir comment on adapte en France, à l'échelle de nos vallons, ces connaissances qui vont permettre de régénérer les sols et puis vraiment maintenir l'eau.
De par le passé, il a existé cette grande réforme agricole du remembrement en France. Mmh. Est-ce que la Drôme en a souffert à ce moment-là?
Il y a une grande différence entre les parties amont et les parties aval. Je prends pour exemple la vallée de la Drôme. Donc les secteurs amont, que ce soit aussi PNR Vercors ou PNR Baronnie, hein, on est dans des configurations qui sont quand même restées pas mal naturelles, avec pas mal de boisements encore et de terrasses et de structures bocagères. Mais par contre, dans les parties aval, effectivement, les exploitations ont eu tendance à énormément s'étendre, hein, et être dans des productions tout à fait différentes. Mais cette problématique, elle est aussi, et malheureusement, peut-être de plus en plus présente aussi dans les parties hautes, par exemple au Diwa, où effectivement, il y a 25 ans, si on remonte juste 25 ans en arrière, les pratiques agricoles étaient beaucoup plus, on va dire, pour certaines pratiques bien sûr, hein, mais en termes de surface, en termes de nombre de surfaces d'exploitation, effectivement, on n'est plus dans les mêmes paramètres. Donc on a besoin de revenir à une configuration spatiale qui prend en compte ces enjeux de biodiversité, de ressources et de milieux. Et ça, c'est vraiment les points clés pour vraiment accompagner l'agriculture localement, pour reprendre en compte, vraiment prendre en considération, justement, une pratique agro-environnemental, où on prend en compte les agro-écosystèmes. Et là, effectivement, les agriculteurs ont un rôle très important à jouer. Et effectivement, je comprends que c'est effectivement très délicat pour eux, puisque c'est leur entreprise, hein.
Je revenais un peu sur, tout à l'heure, vous introduisiez sur l'assèchement de certaines sources. La cause, on peut la deviner, c'est le réchauffement climatique, mais seulement.
Je pense que les pratiques culturales aujourd'hui ont d'autant plus d'impact du fait du dérèglement climatique. Donc, je pense que il y a un ensemble de facteurs qui font qu'on en arrive là et qu'on a besoin de mieux connaître. Je crois qu'il y a un travail de connaissance à faire, mais on est orienté sur la pratique, c'est-à-dire sur l'expérimentation en développant des partenariats locaux avec les instituts de recherche, mais également les agriculteurs.
Et donc, on va aborder un petit peu le comment, hein, ça s'opère, auprès de quel secteur, on va peut-être préciser. actuellement en tant qu'expérimentation ?
Oui, donc nous proposons notre assistance aux communes pour la, par la mise à disposition d'une équipe d'intervention pour maintenir ou restaurer la ressource en eau et les milieux. Les secteurs d'intervention sont donc les petites communes prioritairement, dans le Haut-Diois, ou dans ces secteurs qui seraient pour nous, on va dire, justement, ces parties amont, c'est-à-dire ces parties qui sont en tête de bassin versant, qui sont absolument stratégiques dans la connaissance de l'hydrosystème et de sa régénération, pour aussi qu'il y ait un impact réel sur l'aval, la partie aval de, des vallons ou des vallées. Et donc, bien sûr, aussi, le fleuve Rhône, puisqu'effectivement, tout est interconnecté. Et c'est cette... en termes d'impact et de partenariat, c'est davantage avec les parcs naturels régionaux que nous sommes en train de voir comment établir des sites pilotes. Effectivement, le site de Marignac, dont Tim est le propriétaire, le copropriétaire, nous a ouvert ses portes pour pouvoir expérimenter et nous en sommes très heureux.
Eh bien, justement, je me retourne donc vers Tim. Quel est cet intérêt pour cette activité du CCC ?
Eh bien, écoute, moi je suis salarié d'une association qui s'appelle les Jardins Nourriciers. Les Jardins Nourriciers, on pratique une forme de maraîchage associative et qui a la particularité de ne pas être regroupé sur une seule parcelle ou sur un seul terrain, mais qui est dispatché sur un ensemble de 9 parcelles. C'est un de nos enjeux dans l'association, c'est de revaloriser des terrains agricoles qui sont inutilisés, qui sont en processus de déprise agricole, qui se referment. Et on a du coup différents types de terrains où on va mettre en œuvre, nous, des pratiques culturales, maraîchères surtout, mais aussi un petit peu d'arbres fruitiers et autres. Et c'est un des gros enjeux qu'on a, nous, en tant que personnes qui produisons des cultures maraîchères, c'est la ressource en eau. Il y a un constat qu'on a très vite fait, c'est qu'on a différentes topographies, nous, sur les différents terrains. On a des terrains qui sont plutôt plats, et où typiquement, on va avoir des pratiques d'arrosage, d'irrigation de nos cultures, qui reposent sur des pompes thermiques et le fait de prélever de l'eau dans une rivière. Et ça, manifestement, nous, ça nous interroge. On se demande, on voit bien, on fait le même constat que d'autres. L'eau, c'est une ressource rare, c'est une ressource très importante, l'eau, c'est la vie. Comment est-ce que nous-mêmes, on se fait acteurs demain de la préservation de cette ressource ? Donc nous, dans les pratiques, on suit un cahier des charges qui est celui de Nature et Progrès, donc on a quand même un fort intérêt pour les questions de biodiversité et la qualité de ce qu'on met en œuvre. Et c'est là que s'est présenté le fait qu'on avait en fait des terrains qui présentaient un potentiel sur toutes les pratiques de récupération d'eau pluviale pour nous-mêmes ne pas impacter négativement les ressources hydriques. C'est pas un schéma sur lequel on veut se projeter très longtemps que d'avoir recours à des eaux de rivière, notamment en été quand le niveau des rivières est le plus bas. Et c'est là que nous on voit un fort intérêt à nos parcelles qui sont en pente, qui sont certes plus difficilement exploitables, mais qui nous permettraient de valoriser mieux tout ce qui tombe du ciel, les eaux pluviales, à l'automne, à l'hiver, au printemps, pour pas avoir un impact négatif sur les ressources en eau en été. Et c'est le cas notamment de ce terrain qu'on a, qui est situé au col de Marignac, qui d'une part est assez grand, c'est un terrain de 8 hectares, et qui surtout est entouré de beaucoup de zones forestières, très pentues aussi. C'est dans ce contexte-là qu'on a rencontré Cariang et Caroline et leur association, et qu'on s'est dit qu'on était très preneurs, nous, d'un accompagnement technique sur qu'est-ce qui pourrait demain être des techniques de valorisation de l'eau pour améliorer ce qu'on fait dans les jardins.
Je reviens à une idée, il y a quelques années, il a été établi les nouvelles cartes des cours d'eau en France et il était noté qu'il y avait énormément de cours qui avaient disparu de ces cartes de manière à avoir moins de contrôle sur la qualité de l'eau. Est-ce que dans votre démarche, ça serait aussi de réhabiliter des rues ou des ruisseaux qui ne sont plus officiellement reconnus comme tels de manière à avoir une certaine protection de la nature sur ces cours d'eau?
La motivation, c'est bien de, on va dire, la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Donc ça, c'est effectivement d'actualité. Et donc, quand on dit la nature, cela implique ce qu'on appelle les corridors écologiques, c'est-à-dire ce qui se dit aussi être, sur le plan plus réglementaire, on va dire, les trames vertes, les trames bleues, et ce qu'on appelle aussi les trames turquoises. Ça veut dire l'interaction entre, on va dire, le terrestre et l'aquatique. Donc, entre ce qui est de l'ordre du terrestre, de toute cette nature terrestre, donc on a les secteurs forestiers qui sont davantage en ligne de crête, et puis on va donc être plutôt dans des secteurs agricoles sur les coteaux, et puis davantage en bord de rivière également, à nouveau la ripisylve avec du boisement. Donc en fait, chaque milieu a sa raison d'être et effectivement interagit. Donc dans cette trame turquoise, je crois que là, il est demandé de réhabiliter un maximum cette trame turquoise. Donc les petits rues, les petits ruisseaux, les mares, tous ces points d'eau et ces petites bandes boisées qui peuvent relier sont absolument indispensables, en fait. Et elles sont prises en compte aujourd'hui sérieusement.
Pour ça, Jean-Claude Rouchouz, qui est le président de votre structure, a établi une carte, à ma connaissance, des cours d'eau qui existent dans le Diwa. Et est-ce que pour vous, ça, c'est un outil, justement, de référence pour établir votre activité ?
Oui. Ce qui est très important, c'est cette connaissance de terrain. Et effectivement, Jean-Claude Rouchouz est notre président. Il a cette vraie connaissance de terrain qui apporte un plus considérable dans la réalisation de nos relevés. Donc que ce soit effectivement ces cours d'eau, les relevés vraiment, on va dire, en temps réel de l'état des cours d'eau et de l'état de la faune et de la flore. Et aussi des sols, c'est-à-dire effectivement aussi bien la connaissance de la géologie que la connaissance de la pédologie, c'est-à-dire la couche de surface des sols. Notre problématique, c'est de, je crois, le besoin des communes, hein, c'est de voir en temps réel quel est l'impact du dérèglement climatique, c'est-à-dire comment anticiper, comment prévenir un glissement de terrain, un retrait gonflement d'argile, un incendie, des incendies, des zones de dessèchement qui seraient prématurées par rapport à, voilà. Donc je crois que nous, notre but, c'est de voir comment répondre en temps réel à ce besoin et à cette responsabilité que porte la commune.
Alors, les communes, quel est cet accueil qu'elles vous ont réservé ?
Je pense qu'elles sont dans une position délicate, beaucoup de responsabilités. Donc l'accueil, il est ouvert, il y a un vrai échange, un vrai dialogue sur la situation, on va dire l'état des lieux. Mais pour autant, ce qui ressort, c'est que ces petites communes rurales n'ont pas de finances. Pas de financement. Donc comment trouver le financement pour nous faire intervenir ? Donc les financements, ça passe par effectivement plus d'interaction de l'agence de l'eau en complément avec d'autres institutions ou fondations. Et je pense que tant que la problématique n'est pas réellement ancrée, quoi, comment dire, c'est assez stupéfiant même, parce que les incendies de cet été, encore, par exemple dans les Baronnies, il y a eu 3 importants incendies, donc notamment sur un des sites, nous intervenons pour une ferme qui a subi un incendie l'été dernier sur le secteur de Montbrun-les-Bains, et la terre est à nu. Donc là, c'est le travail de voir comment on va réhabiliter, accompagner l'agriculteur sur son site qui a subi cet incendie l'été dernier, en août dernier. Donc, je crois que la problématique, c'est, elle est là, elle est bien réelle. Je pense que maintenant, on est, je veux dire, ça se passait en Australie il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, c'est ici, je veux dire. Hein. Voilà. Mais le passage à l'action, c'est-à-dire comment on va financer ces actions, comment on va les porter, il y a quand même un décalage.
Dans le titre de votre association créative, coopération, culture, la coopération se limite à quel niveau ou a-t-elle une limite ? Tout le monde peut y participer ?
J'aimerais beaucoup que dans la phase de relevé, déjà dès le départ, on fasse participer les habitants du vallon. Il y a différentes techniques, quoi, d'outils qui peuvent être mis à l'œuvre. Dans toutes les phases du diagnostic territorial, donc la première étape au chantier participatif, on souhaite que les habitants puissent s'impliquer avec nous sur la mise en œuvre. Mais ce n'est pas seulement les habitants, c'est les acteurs locaux. Donc, c'est complexe et multi-acteurs comme projet. D'où, effectivement, le fait qu'en 2021, c'est encore innovant, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Mais pour autant, faire se rencontrer sur ces sujets-là, dans cette approche biogéographique, on va dire, aussi bien les habitants que les élus, que les institutions ou les techniciens en place, c'est un challenge. Mais effectivement, ça a toute sa place aujourd'hui pour trouver des solutions qui soient durables. C'est-à-dire que c'est la question de la gestion partagée qui est là, au cœur de la problématique, quoi, aux problématiques ou en tout cas du sujet. Hein. Le cœur, on va dire, l'enjeu, c'est l'enjeu d'avenir. C'est l'eau est notre ressource d'avenir. C'est-à-dire que finalement, l'enjeu, c'est de partager.
Et puis, il y a aussi, on peut le dire, certains secteurs d'activité qui ont nécessité d'eau, comme certaines brasseries ou d'autres fabricants de produits alimentaires. Eux, quelle part prendraient-ils justement dans cette gestion aussi? Est-ce que vous allez au-devant d'eux pour peut-être préparer l'avenir aussi?
On est centré sur cette approche biogéographique et naturelle. Donc, c'est voir quelles conditions et moyens pour la mise en œuvre de la trame turquoise. Et donc, pour nous, c'est vraiment notre centre d'action. Les acteurs économiques du secteur peuvent absolument sponsoriser cette action. Je crois que ce serait très profitable pour eux. Mais effectivement, nous avons créé l'association il y a un an. Et l'équipe d'intervention est en cours de constitution. Et nous sommes très ouverts sur plein d'outils et de soutien qui pourraient être mis à l'œuvre.
Effectivement, ça fait un peu plus d'un an que Jean-Claude Rouchouz était venu nous parler de votre structure, association. Le Covid est venu, ça a dû quand même pas mal ralentir votre activité. Vous parliez donc de trame turquoise. Qu'est-ce que signifient ces trois couleurs différentes? Elles se rapportent à quoi?
Alors, la trame verte, c'est privilégiément tout ce qui est du secteur forestier, en fait. Tout ce qui est... des prairies, des forêts, tout ce qui est de l'ordre de ce qui occupe dans un vallon les surfaces terrestres. Donc l'occupation du sol, on va dire, terrestre. La trame bleue, c'est ce qui est aquatique, vraiment absolument, aussi bien les milieux humides, que effectivement vraiment l'eau en elle-même, les cours d'eau. La trame turquoise, elle est à l'interaction entre... tout ce qui est de l'ordre du végétal, de l'occupation du sol végétal et l'occupation du sol aquatique. Donc ça peut être l'implantation de points d'eau comme des mares. Les zones humides sont aussi dans ces interactions-là pour réhabiliter, protéger les circulations de la faune et de la flore, puisqu'il y a en fait des milieux qui sont inféodés, c'est-à-dire des plantes qui sont vraiment spécifiques à ces milieux et qui sont très importantes. Ces milieux, pourquoi ils sont importants? Parce qu'ils permettent de réalimenter la nappe phréatique essentiellement. C'est-à-dire que ces trames sont fondamentales pour maintenir la régénération de l'ensemble, on va dire, des hydrosystèmes. Et la nature, c'est-à-dire tout ce qu'on connaît de la nature, et de ces circulations, permet de protéger quelque part justement ce qui se passe sous terre. C'est-à-dire qu'il y a bien des choses qu'on ne voit pas. Même un cours d'eau peut être à un moment donné sous terre. Vous voyez, il y a bien des choses qu'on ne voit pas.
Par rapport à l'écoulement des eaux, au ruissellement des eaux, la nature faisant bien les choses, l'eau elle-même a choisi ses propres parcours. Est-ce que l'activité de l'homme a impacté aussi le parcours naturel des cours ?
Moi, si je peux intervenir là-dessus, je pense qu'en effet, autrefois, il y avait beaucoup plus d'interventions humaines sur les cours d'eau, que ce soit des rivières ou sur même des tout petits torrents ou autres. Il y avait une pratique, il me semble, hein, même qu'on observe en Vallée de Quin ou du côté de Marignac, qu'autrefois on constituait des réserves d'eau. Et on les constituait plutôt à l'automne, à l'hiver, au printemps, pour un usage estival. Là où ensuite, alors c'est un autre débat, mais il y a eu des lois sur l'eau, politiques de gestion de l'eau, qui ont plutôt eu tendance à remettre en question ce côté artificialisation des cours d'eau. Alors il y a eu une réflexion autour du fait de redonner une dynamique naturelle à l'écoulement des eaux pour des questions de sédimentation et autres. Et néanmoins, bah, c'est là qu'on se retrouve de nos jours avec des cours d'eau certes très naturels, mais avec des pratiques agricoles qui sont d'autant plus impactantes. C'est-à-dire que, je vous en donne un exemple, moi je suis maraîcher, quand est-ce que j'ai besoin d'eau ? J'ai besoin d'eau en été. Et j'ai très peu de réserves qui ont été constituées en amont. Donc au moment même où je vais ponctionner et prélever de l'eau sur un cours d'eau, c'est au moment même où le niveau d'eau est le plus bas. J'ai plus exactement le chiffre en tête, mais on fait un travail un peu de longue haleine avec la feuille de Quin sur la gestion de l'eau en vallée de Quin. Il me semble qu'il y a de ça quelques décennies, on était sur une dizaine, voire plus de tout petits barrages, petites prises d'eau sur la Sûre notamment, qui n'existent plus en fait de nos jours. Et c'est un petit peu, nous, en ça, qu'on s'est intéressé au travail de l'association CCC. C'était comment repenser ce type de petits aménagements qui n'auraient pas un impact fondamental sur un cours d'eau, au contraire, qui irait dans le sens de la valorisation de cette eau et qui permettrait de mettre en œuvre des pratiques agricoles qui prendraient soin de la ressource.
À l'image de Livron, je crois, il y a peut-être 200 kilomètres de canaux hein, aménagés sur leur territoire. C'est une manière aussi de détourner la rivière, d'irriguer les terres et de repartir ensuite dans la Drôme ou dans le Rhône. Est-ce que ça, c'est une idée ? Moi, ce que je me dis aussi, c'est à force de vouloir donner libre cours à ces cours d'eau et donc à ces ruissellements, est-ce qu'il n'y aurait pas un assèchement des terres environnantes, puisqu'elles n'ont plus part de pouvoir s'arrêter ou stagner de manière à irriguer ou à arroser certaines terres ?
Oui, c'est-à-dire que...
Et par là même aussi de retenir l'eau plus longtemps ouais. sur les territoires avant qu'elle parte dans le fleuve ou dans la Drôme.
Oui, il y a, on va dire quand j'ai créé mon bureau d'études d'architecte paysagiste il y a plus de 10 ans, tout de suite je me suis concentrée sur cette question de l'occupation du sol. C'est-à-dire pour moi, j'ai vu qu'effectivement il nous fallait avoir cette approche sur l'ensemble du bassin versant. Pour comment, en fait, c'était ce qu'on on parlait des plans de prévention, risque inondation, PPRI. Et j'étais dans cette optique de proposer un plan de paysage pour la prévention du risque inondation. Donc, oui, de par mon métier, ingénieur paysagiste, j'ai cette vision et cette approche de l'occupation du sol sur l'ensemble du bassin, que ce soit petit vallon ou plus grand. Et je crois qu'effectivement, c'est très important de ne pas seulement considérer justement le cours d'eau, dont ce qu'on appelle la trame bleue, mais bien la trame verte, c'est-à-dire dans l'ensemble du bassin, quel est l'impact de tout ce que génère justement cette trame verte sur la trame bleue. C'est fondamental. Et donc, ça revient à ce que vous dites autrement, mais... C'est cette question de comment on régénère les sols par les pratiques, mais également par cette connaissance. Donc il y a une interaction entre la sagesse paysanne et des connaissances contemporaines de zones désertiques. C'est-à-dire comment dans un désert, on va réhabiliter un désert pour revenir à une pratique agricole viable. Donc on en est là, je veux dire. Il n'y a pas une réponse toute faite. Je pense que chaque site a sa configuration, a sa singularité, et c'est bien en étant sur site, en étudiant sa configuration, notamment sa topographie, ça veut dire son relief, les montagnes ont un rôle très important.
Qu'est-ce qui est proposé justement à la population, aux habitants et aux acteurs de ces utilisateurs de l'eau?
Donc ce qu'on propose, c'est dans un premier temps, que ce soit pour Tim, pour son exploitation ou pour un collectif d'agriculteurs en tête de bassin versant ou pour une commune. C'est, dans un premier temps, on élabore un diagnostic, un état des lieux. Idéalement, on aimerait faire les relevés aux 4 saisons pour à la fois apporter des données sur l'impact du dérèglement climatique sur ces sites, mais également, bien sûr, ce sont ces données, ces connaissances qui vont nous permettre de faire des propositions de composition. Donc cette composition qui s'appuie sur ces savoir-faire qui sont développés à l'international. Donc là, effectivement, on fait des propositions. Si c'est à l'échelle d'une commune, ça va se mettre en place sous forme de réunions et de rencontres régulières où on va proposer sous la forme d'un document partageable aussi et d'échanges pour vraiment que chacun puisse avoir la parole et donner donc que ce travail soit accessible à tous dans cette à la fois cet échange de un petit peu dans cette approche de collectage de récits de vie aussi, hein. C'est-à-dire que ce sont des lieux de vie. Donc les habitants ont cette vraie connaissance de leur lieu de vie. Et puis, à l'issue de ce travail de composition, on souhaite mettre en œuvre des chantiers participatifs. C'est-à-dire effectivement où là, chacun puisse avoir aussi sa place pour participer aux réalisations, à la mise en œuvre de ces ouvrages qu'on aura donc décidés ensemble.
Ces propositions, elles émanent de votre réflexion, de votre constat, des échanges. Mais qu'est-ce qui inspire un petit peu ce mouvement ?
Moi, en termes d'inspiration, je pense que le travail que vous menez, on peut nommer la permaculture aussi, parce qu'il y a une vraie réflexion sur cette valorisation de la ressource en eau. Il y a des personnes quand même très pertinentes qu'on peut nommer, qui sont Sepp Holzer, qui est quelqu'un de très reconnu dans le milieu de la permaculture et qui a construit un modèle agricole dans une vallée autrichienne sur la création justement d'une soixantaine de lacs et bassins artificiels pour repenser tout un système agricole. Et une autre grosse source d'inspiration, c'est en effet Jeff Lawton, qui est lui un Australien, et là-bas la problématique de l'eau est vraiment très grande, quoi. La ressource en eau, bon, ben, c'est un enjeu. Et lui, c'est quelqu'un qui a été missionné notamment par des pays pour tenter des expérimentations pour reverdir des déserts. Et là, lui, il a fait des observations assez phénoménales, mais il ne faut pas grand-chose, en fait, pour redonner un potentiel agronomique à des terres complètement incultivables. C'est des techniques assez bêtes, mais qui reposent sur un savoir-faire ancestral qui est celui des courbes de niveau. Hein, quiconque a déjà vu une carte IGN sait qu'il y a des petits traits qui caractérisent des altitudes. Et c'est quelque chose qu'on ne sait plus vraiment faire. Autrefois, tu aurais regardé ici, même dans le Diois, je pense, des rangs de vignes, ils n'étaient pas plantés de haut en bas d'une montagne ou d'une parcelle. Ils auraient été plantés sur courbe de niveau. Il y a toujours eu ce savoir-faire de gestion de l'eau aussi. Et c'est ensuite les pratiques agricoles, notamment aussi l'usage de tracteurs, qui a modifié notre rapport à la pente. Moi, avant de rencontrer l'association CCC, et avec l'association Les Jardins Nourriciers, on mettait en œuvre ce type d'expérimentation, notamment par le fait de créer des terrasses qui, en effet, suivaient les courbes de niveau. Alors, nous, on a différentes pratiques en maraîchage. On va d'une part chercher à réduire le plus possible notre consommation d'eau. Alors ça, c'est une technique culturelle. On va pailler, on va sélectionner des semences progressivement en fonction de leur capacité de résistance à la sécheresse, vu qu'on va valoriser aussi ce patrimoine génétique de nos graines. Mais après, il y a tout ce qui est justement les aménagements de sites. Ça me fait penser à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le fait qu'il y ait des cours d'eau qui ne soient plus cadastrés, qui ne soient plus reconnus cours d'eau. C'est un mal pour un bien, moi j'ai envie de penser. au site Le Permacol, donc au col de Marignac. Certains de nos torrents n'étant pas cadastrés, on sort d'une certaine législation. Et c'est ce qui nous a permis, nous, de mettre en place des petites expérimentations, notamment de seuils. Alors les seuils, c'est, il faut s'imaginer comme des petits barrages qu'on fait avec des troncs de pin. Ça a différents impacts. Ça évite l'érosion des berges, ça évite le creusement des lits de rivière. Mais surtout, ça fait comme des toutes petites rétentions d'eau qui, en fait, quand il y a une période de sécheresse estivale, on a créé une multitude de tout petits réservoirs d'eau qui, petit à petit, va restituer ces réserves au cours d'eau. Et c'est un petit peu tout l'enjeu, c'est comment faire en sorte que les cours d'eau ne s'assèchent plus complètement. Et c'est notamment sur ces petits cours d'eau qui ne sont pas cadastrés qu'on a un petit peu plus de marge de manœuvre pour aller essayer de mettre en œuvre ce type d'aménagement. Et nous, on est très preneurs du coup d'un suivi de la part de l'association sur le côté technique, sur le côté impact sur l'ensemble du bassin versant pour bien mesurer est-ce que nous, ce qu'on essaye de faire pour préserver la ressource en eau, est-ce que c'est pertinent, est-ce qu'on fait quelque chose d'intelligent ou pas. Nous, on fait, et du coup, le conseil technique et le suivi sur un territoire plus grand, eh ben, c'est une vraie chance pour nous d'avoir rencontré votre association.
Il existe toujours un savoir-faire de ce traitement ou de cet entretien des cours, ou alors il faut recréer cet aspect-là aussi au niveau de la main de l'homme.
C'est comme si on avait besoin de tout réapprendre quelque part. Donc c'est une belle opportunité, je pense. Et je pense que des sites comme ceux sur les sites de Team sont importants pour expérimenter et pour donner à voir. C'est-à-dire que ça deviendra des vitrines où les élus pourront venir visiter, voir effectivement, voilà, quel impact ça a eu. Et je pense que on a besoin d'être dans l'expérimentation. C'est comme si tout est à recommencer quelque part. C'est cette sensation que j'ai et qui peut apporter beaucoup de, je pense, de bien.
Je reviens donc sur Créative Coopération Culture. Vous vous êtes établi à l'espace social et culturel du Diwa. Si on veut vous contacter, c'est par ce biais, je suppose. Vous êtes donc Carrie Yang avec Caroline Chaperon pour coordonner cette activité. Vous étiez trois ou deux ?
En fait, nous sommes donc deux membres actifs à l'association. Et puis, donc, il y a un bureau. L'association est composée d'un bureau. Et puis donc d'un président, d'un trésorier, deux membres actifs à l'heure actuelle, avec effectivement ensuite des animateurs techniques qui sont des consultants. Donc nous travaillons avec le bureau d'études Facelia, et donc qui est spécialisé dans la gestion de l'eau dans les agroécosystèmes, et le centre de recherche en intelligence collective, le STRIC, qui est basé à Lyon.
Alors, vous avez une certaine expérience en ingénierie. Quant à Caroline Chaperon, quelle est sa spécificité ou sa spécialité ?
Donc, Caroline est architecte et elle s'est spécialisée dans l'environnement en faisant des formations complémentaires. C'est le fait que je lui ai, comment dire, j'ai partagé avec elle mes recherches. Et effectivement, ça fait déjà maintenant plus de 3 ans. Et de fil en aiguille, donc, je lui ai proposé d'être ma coéquipière pour monter cette initiative.
Est-ce que vous avez une visibilité sur Internet de votre activité ? Ou alors, quels sont vos contacts, mis à part l'espace social et culturel du Diwa ?
Donc, on a installé une plateforme sur Hello Asso. C'est en cours de constitution. Donc là, ce sera sûrement le meilleur moyen de nous joindre, d'avoir une idée de ce qu'on fait. Effectivement, on aimerait créer un site internet. Mais pour nous, le plus important, c'est d'être à pied d'œuvre sur site et de pouvoir vraiment, de bouche à oreille, pouvoir intervenir.
Eh bien, Tim Haider et Carrie Yang Stablo, je vous remercie tous deux d'être venus nous parler donc, de CCC et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.
Merci.